Bonjour et bienvenue dans l'émission Le goût du Moyen-Âge, une série de podcasts proposée par les étudiants du Master Monde Médiévaux de l'Université de Poitiers. Cette série a pour objet de vous présenter leur sujet d'étude. Je m'appelle Jean-Baptiste Leclerc et j'ai le plaisir de vous présenter ce podcast. Mais je ne serai pas seul, puisque je serai accompagné de deux intervenantes, Aliénor Rabot et Jeanne Ledan, qui travaillent toutes les deux sur la peinture murale. Elles nous expliqueront la manière dont elles ont abordé ce sujet fascinant. Quand nous parlons de peinture murale, nous pensons aussitôt à l'histoire de l'art. Mais il existe d'autres manières de l'étudier, comme l'archéologie, et c'est justement cette méthode qu'a choisi d'utiliser dans son mémoire notre première intervenante, Aliénor Rabot. Bonjour Aliénor.
Bonjour Jean-Baptiste.
Pour vous présenter succinctement, vous avez fait votre licence d'histoire de l'art et archéologie à l'Université de Poitiers, à la suite de laquelle vous avez commencé un master recherche monde médiévaux dans cette même université. Votre mémoire porte sur les peintures murales et l'église de Brégueul-le-Chantre, une commune située dans le département de la Vienne. Vous réalisez ce mémoire sous la direction de Nicolas Proutot, maître de conférence en archéologie médiévale à l'Université de Poitiers. Mais vous êtes également suivi par Karine Assarad, archéographe et ingénieur d'études CNRS. Mais tout d'abord, Aliénor, expliquez-nous pourquoi étudier les peintures murales de l'église de Brégueul-le-Chantre et surtout, pourquoi utiliser la méthode de l'archéographie.
Merci pour cette introduction. Alors tout d'abord, le choix de ces études a pour moi été très naturel par simple goût du Moyen-Âge, dirait-on. J'ai été davantage formée en archéologie, mais pour mon sujet, je cherchais quelque chose où je pourrais allier cette discipline à celle de l'histoire de l'art, ou tout du moins apporter un regard complémentaire sur un objet traditionnellement lié à l'histoire de l'art. De fil en aiguille, j'ai trouvé que les études sur la mise en œuvre des peintures murales, ou enduits-peints comme on dit plutôt en archéologie, correspondaient bien à cette approche mixte. Comme vous l'avez dit, mon sujet de recherche plus précis porte sur l'église Saint-Hilaire de Brégueul-le-Chantre. Pour un peu de contexte, cette église est donc une église paroissiale aujourd'hui entre la Vienne et la Haute-Vienne, qui au Moyen-Âge était dans le diocèse de Limoges. Elle est datée du XIIe siècle et conserve de nombreuses peintures murales médiévales issues de différentes phases d'embellissement de l'édifice, c'est-à-dire entre le XIIe et le XVe siècle. Juste avant que vous puissiez vous faire une idée des peintures qu'on y retrouve, donc on trouve des thèmes assez communs comme un Christ en gloire accompagné d'une Vierge à l'enfant et d'une crucifixion, la peinture de saints martyrs comme Sainte Catherine, Sainte Valérie et le plus impressionnant, un Saint Christophe, mesurant environ 6 mètres de haut. Mais l'église contient aussi des peintures dites non figuratives, avec des appareils peints pour imiter les parements de la pierre, des motifs ornementaux ou encore des motifs héraldiques. Il s'agit d'une église de taille modeste, mais son décor a fait l'objet d'une certaine attention entre le XIIe et le XVe siècle. Cette attention peut s'expliquer par le contexte historique que j'ai pu étudier l'année dernière au travers des sources textuelles conservées dans les différents fonds d'archives. En effet, l'église est dépendante du chapitre du Dorat dont les abbés et le chantre financent les travaux et est également proche des pouvoirs religieux de la ville de Montmorillon, du côté du Poitou. J'ai tout de suite trouvé ce sujet intéressant, notamment parce que les peintures murales de l'église ont été redécouvertes et restaurées qu'entre 2014 et 2021. Elles n'ont donc jamais vraiment été étudiées, ni l'église dans son ensemble d'ailleurs, puisque comme je l'ai dit, il s'agit d'une église rurale plutôt modeste. On est donc loin d'une cathédrale ou d'une création architecturale particulièrement remarquable. J'ai également choisi de travailler sur cette église, car elle est peu éloignée de mon lieu de résidence et une partie de ma famille est originaire du village de Brégueul-le-Chantre. Je précise ça parce qu'en vérité, les raisons pratiques et sentimentales sont souvent déterminantes dans le choix d'un sujet de recherche, en plus des aspects purement scientifiques, bien évidemment. Plus concrètement, j'ai construit mon sujet de recherche autour de deux aspects que j'entremêle. Ce qui fait que j'étudie aussi bien l'architecture et les modes de construction de ce monument que ses peintures murales. Mon but est de comprendre l'organisation des différents chantiers de construction et d'embellissement de l'église. Autrement dit, comprendre quand, pourquoi, mais surtout comment les artisans médiévaux ont bâti puis peint l'église. Pour cela, j'utilise les méthodes de l'archéologie du bâti, ce qui permet, en repérant les anomalies sur les murs, les changements de pierre, de mortier ou d'appareillage, de comprendre les maçonneries, leur ordre de mise en œuvre et les différentes modifications qu'elles ont pu subir au cours du temps. Et les peintures, puisqu'elles sont sur ces murs, font partie de cette même stratigraphie du bâti. Avec cette même approche donc, mais à une échelle différente, on peut aller jusqu'à restituer l'ordre d'application des couches picturales au sein des peintures. On dit plus simplement, cela permet de comprendre les techniques et les gestes qu'ont employés les ateliers de peintres médiévaux à Brigueuil-le-Chantre. Ce type de recherche, finalement très technique sur un site qui conserve des peintures murales, est hérité des travaux menés à Auxerre et dirigés par Christian Sapin durant les années 90. Il ne s'agit donc pas d'une approche spécifiquement nouvelle que j'emprunte, mais qui est encore à développer et qui est loin d'être utilisée systématiquement lorsque l'on découvre des peintures murales.
Oui, nous voyons bien comment votre parcours personnel et étudiant vous a guidé dans le choix de Brigueuil et vers la technique de l'archéologie, une technique qui n'est donc pas si nouvelle, mais qui est encore trop peu connue. Justement, pour mieux comprendre la différence de ces techniques avec l'histoire de l'art, pourriez-vous nous expliquer comment ces deux méthodes se différencient et se complètent ?
Eh bien, tout ce travail minutieux de restitution de la technique employée par les peintres permet souvent aussi de déceler quelques détails stylistiques qui sont devenus peu lisibles à cause du temps, voire des éléments utiles à la compréhension de l'iconographie, soit du thème et du sens de l'image. Ces détails peuvent être très importants pour savoir si une peinture est plutôt originale ou si elle s'inscrit dans un contexte, par exemple, ou encore pour déterminer si des ateliers de peintres ont pu travailler dans différentes églises proches. Et toutes ces questions relèvent surtout de l'histoire de l'art. Pour mon travail sur Brigueuil-le-Chantre, j'aborde tous ces aspects, mais de façon à ouvrir des pistes pour les historiens de l'art. Mais mon travail sur le sens des images ne sera jamais aussi poussé que les recherches que peut mener Jeanne, par exemple. Mais il est vrai, je concède que dans ce domaine, les frontières entre l'archéologie et l'histoire de l'art sont totalement artificielles. Les historiens de l'art, d'ailleurs, se réapproprient de plus en plus directement ces méthodes nées de l'archéologie du bâti. Bien que ça ne soit pas toujours systématique, la collaboration entre les disciplines est nécessaire, car si on regarde plus largement le monument, on doit d'abord comprendre un mur avant de savoir ce qui vient s'apposer dessus. Ça peut éviter des erreurs de datation, notamment, voire d'interprétation des peintures. À Brigueuil-le-Chantre, par exemple, il y a une peinture romane représentant l'épisode des saintes femmes qui viennent apporter leurs offrandes au tombeau du Christ et qui constatent sa résurrection. Cette scène apparaît a priori simplifiée ou incomplète, car traditionnellement, un ange se tient à côté du sarcophage et celui-ci est absent à Brigueuil. Cependant, tout le travail de compréhension de l'architecture me permet de savoir que l'église a été revoûtée aux alentours du XIIIe siècle et qu'un pilier de ces nouvelles voûtes vient potentiellement recouvrir une partie de la peinture des saintes femmes au tombeau. Cette représentation, elle n'est donc pas spécifiquement originale ou plus simpliste de ce point de vue-là, puisque l'ange est tout simplement caché aujourd'hui. Outre cet exemple, l'archéologie, elle a une approche très exhaustive qui permet également de documenter des décors plutôt lacunaires ou aux motifs plus simples, tels que les faux appareils ou les frises, qui intéressent moins les historiens de l'art traditionnellement, car le discours interprétatif à leur sujet est plus limité.
Merci pour toutes ces explications très claires et cet exemple qui nous montre l'importance de l'étude du support de la peinture murale. Nous sentons à travers vos explications que vous êtes pris de passion pour ce sujet. Cependant, avez-vous pu rencontrer quelques difficultés lors de votre étude ?
Oui, bien sûr. Je dirais dans un premier temps, le fait que personne n'ait vraiment travaillé sur ce site avant moi rend les choses un peu plus complexes, mais c'est également une chance puisque je n'ai pas cette pression de me dire que mon travail n'est qu'une synthèse de mes prédécesseurs. Et à côté de cela, les sources textuelles qui me permettent de comprendre le contexte historique de la paroisse sont aussi peu nombreuses. Je dois émettre des hypothèses à partir de seulement 3 textes médiévaux conservés qui ne mentionnent pas directement l'église, et puis des archives de l'époque moderne, mais c'est somme toute assez commun pour des petites églises comme ceci, et surtout pour des périodes anciennes. Enfin, le plus gros souci, on pourrait dire, mais c'est aussi tout le sel de mon mémoire, c'est de réussir à mettre en place une méthodologie efficace pour lier le bâti et l'étude des enduits peints. Car il n'existe pas de protocole réellement normalisé sur ce genre d'approche. De même, l'étude technique de la peinture murale se fait normalement, enfin traditionnellement, sur le terrain, à l'aide de relevés sur calque transparent qu'on appose sur le mur et on reproduit chaque écaille de peinture, couche par couche, pour refaire le geste du peintre médiéval. Ce procédé, il nécessite généralement des échafaudages, des autorisations spécifiques de la part des monuments historiques et avec bien sûr des questions de financement et de délai administratif. Et mon objectif est de mettre en place une alternative à toutes ces contraintes en passant par le modèle 3D et puis des orthophotographies, donc c'est-à-dire des photos redressées de ces peintures. Et tout cela est encore assez expérimental et nécessite plusieurs tests, sans compter les temps de traitement informatique qui sont généralement assez conséquents. Et dans le même temps, je fais également ces relevés dits à l'ancienne pour justement pouvoir comparer ces deux techniques d'acquisition.
Merci Alinor d'avoir répondu à nos questions sur les peintures murales de l'église de Brigueul-le-Chantre et sur l'archéologie, qui vient donc compléter l'histoire de l'art dans les études des enduits peints. Et justement, pour parler d'histoire de l'art, je vais me tourner vers notre deuxième intervenante, Jeanne Ledan, qui étudie les peintures murales d'une église, mais cette fois en utilisant les méthodes de l'histoire de l'art. Bonjour Jeanne.
Bonjour Jean-Baptiste.
Pour vous présenter brièvement, vous avez commencé votre cursus universitaire par une licence en histoire de l'art à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, avant de faire un master recherche monde médiévaux à l'Université de Poitiers. Votre master a pour sujet l'étude des peintures murales du XIIe et XIIIe siècle situées dans l'abside de Notre-Dame de Chemillé, une petite commune du Maine-et-Loire. Vous êtes accompagné par Marcelo Angeben, votre directeur de mémoire, qui est maître de conférences HDR en histoire de l'art médiéval à l'Université de Poitiers, ainsi que par Nathalie Leluel, maîtresse de conférences à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Tout d'abord, Jeanne, j'aimerais vous demander pourquoi choisir l'église de Chemillé et pourquoi du point de vue de l'histoire de l'art.
Merci Jean-Baptiste pour cette introduction. Alors c'est lors de cours d'histoire de l'art médiéval et de travaux en licence que j'ai véritablement pris goût pour le Moyen-Âge et les peintures murales. Ensuite, en licence 3, au moment de préparer les candidatures de master, j'ai souhaité tout naturellement travailler sur des enduits-peints. L'église Notre-Dame de Chemillé est située près de là où j'ai grandi. Je me suis donc penchée sur ces peintures pour aboutir finalement à mon sujet de mémoire. Les peintures sur lesquelles je travaille sont situées dans l'abside de l'église, c'est-à-dire la partie la plus à l'est, le chevet de l'édifice, souvent là où était situé le sanctuaire. Notre-Dame est une église de taille assez modeste, mais qui n'empêche absolument pas un renouvellement fréquent des peintures. Plusieurs scènes y sont conservées et datent de campagnes différentes, réalisées lors de différents chantiers, entre le milieu du XIIe siècle et le milieu du XIIIe. Il y aurait entre 3 et 4 campagnes qui se seraient succédées au cours de ces 100 ans. Elles se superposent parfois, les campagnes les plus récentes viennent alors recouvrir les plus anciennes. Concernant les scènes représentées, on trouve par exemple un Christ trônant entouré des 4 évangélistes zoomorphes, qu'on appelle le tétramorphe. On trouve aussi une scène figurant l'adoration de l'agneau mystique par les vieillards de l'Apocalypse, un cycle autour des rois mages ou encore un calendrier double avec l'occupation des mois et les signes du zodiaque. Pour comprendre ces images et la cohérence entre les différentes campagnes, je réalise plusieurs études au sein de mon mémoire, donc une étude iconographique, une étude technique et une étude stylistique. Mon travail de Master 1 s'est concentré sur une synthèse historique et architecturale de l'église Notre-Dame, à partir de précédents travaux, complétés par les maigres sources textuelles médiévales conservées. Pour l'étude iconographique, c'est-à-dire comprendre la construction d'une image ou les références convoquées par exemple, je travaille beaucoup avec des comparaisons. Donc comment représente-t-on les mêmes sujets des peintures de Notre-Dame dans des aires géographiques et chronologiques similaires? Quels sont les choix de représentation faits à Notre-Dame? Est-ce que l'agencement de ces scènes dans l'espace de l'église se retrouve dans d'autres églises ou non? Ce sont plusieurs questions qui m'ont intéressée cette année afin de comprendre l'originalité ou non des peintures de Notre-Dame. Concernant l'étude stylistique, je m'appuie également sur des comparaisons avec d'autres peintures murales en ajoutant également des comparaisons au sein même de l'édifice. Les comparaisons entre les peintures de Notre-Dame sont un outil pour comprendre le nombre d'ateliers ayant travaillé sur les chantiers, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs mains qui ont réalisé les peintures, puisqu'au niveau des visages ou même des pigments utilisés par exemple, eh bien c'est très différent en fonction des peintures. L'analyse stylistique s'appuie également sur l'analyse technique des enduits. Cette analyse technique est faite à partir de relevés sur photographie, dont les clichés ont été réalisés lors d'une campagne photographique en avril 2024 par Lisa Oriane-Crolland, photographe du CESCM. Le but de cette étude est de comprendre la réalisation matérielle des peintures, donc les tracés préparatoires, les pigments utilisés, l'ordre de placement des couches, etc. L'étude technique permet aussi de déterminer les différentes mains d'un chantier. Par ailleurs, à la différence du sujet d'étude d'Aliénor, il y a déjà eu plusieurs travaux qui ont été réalisés sur Notre-Dame de Chemillé et ses peintures murales. Ces travaux ont principalement été faits par Christian Davy, chercheur en histoire de l'art médiéval et spécialiste des enduits peints romans de l'ouest de la France. Il aborde pour la première fois les peintures de Notre-Dame dans sa thèse, au cours des années 90. Il a réalisé plusieurs articles sur le sujet depuis, le dernier étant publié en 2023 avec une étude conjointe de la charpente et du bâti de l'église. L'ensemble des peintures de l'église a été restauré entre 2012 et 2019, et ce dernier article est le seul à aborder les enduits depuis les restaurations. Ces restaurations offrent donc à mon sujet un nouvel éclairage et de nouvelles perspectives depuis les études antérieures.
Nous pouvons voir à travers vos explications que, comme Aliénor, votre choix est lié à votre parcours tant personnel qu'universitaire, et c'est vraiment impressionnant de voir comment la petite église près de chez soi peut en fait devenir un sujet de recherche très riche en bénéficiant des différents éléments de méthode ou de connaissances apportés par les chercheurs précédents. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous travaillez sur une superposition de couches de peinture murale d'époques différentes. Comment faites-vous pour comprendre et travailler sur les couches situées en dessous des autres ?
Alors effectivement, je travaille sur des peintures qui se superposent. Donc il y a plusieurs cas de figure qui sont présents à Notre-Dame. Premier cas de figure, dans l'abside, on voit en grande partie les enduits du XIIIe siècle, mais des fenêtres de sondage, c'est-à-dire des rectangles de tailles différentes qui retirent les couches supérieures d'enduits, ont été réalisées pour nous permettre de voir les peintures du XIIe siècle. En quelque sorte, l'enduit du XIIIe siècle est donc découpé pour montrer ce qu'il y a en dessous. Second cas de figure, les enduits se décollent tout seuls et naturellement du mur, et en tombant, ils découvrent les couches inférieures. Souvent, les enduits ne se décrochent pas uniformément du mur, ce qui ne donne pas une lecture claire de la scène située dessous. Troisième cas de figure, les choix de restauration privilégient une scène inférieure. C'est le cas de la voûte sur laquelle est peinte l'adoration de l'agneau par les vieillards, scène ensuite recouverte par un appareillage de pierre de taille peint. Les enduits avec l'appareillage peint ont été conservés et restaurés en partie basse de la voûte, ce qui laisse donc un témoin de cette phase. Le reste de la voûte a été dégagé de manière à mettre au jour les vieillards et l'agneau, donc sur les parties les plus hautes de la voûte. Les deux faces sont donc visibles en même temps, bien qu'elles n'aient jamais été visibles simultanément à l'époque médiévale. C'est un choix de restauration.
Merci Jeanne pour toutes ces explications très intéressantes. Nous avons vu plus tôt que Aliénor avait pu rencontrer plusieurs difficultés lors de son étude. Vous-même, avez-vous pu rencontrer plusieurs problèmes lors de la vôtre ?
Oui, j'ai évidemment rencontré des difficultés et des défis dans ce travail. Tout d'abord, la datation de peinture murale reste une tâche complexe. On a plusieurs indicateurs pour les dater, comme l'iconographie, la technique ou le style, qui permettent de donner des fourchettes plus ou moins fiables. Ces indicateurs restent néanmoins plutôt variables entre zones géographiques et chronologiques. En parallèle, le manque de documentation textuelle d'époque sur Notre-Dame limite le croisement des données à ce sujet. Néanmoins, l'archéologie, et notamment celle du bâti, donc les murs de l'église qui sont ensuite peints, constitue un autre indicateur pour la datation des enduits, ce qui permet donc de multiplier les sources. Autre difficulté rencontrée avec cette étude, c'est le fait de travailler sur un sujet déjà abordé par des spécialistes. Il faut réussir à se détacher des précédents travaux pour réaliser une recherche qui nous est propre, tout en ayant évidemment connaissance des apports des études antérieures. C'est un exercice difficile. Personnellement, travailler avec des méthodes non employées lors des précédentes études, comme le relevé sur photographie par exemple, m'aide à prendre le recul nécessaire sur les travaux déjà réalisés. Enfin, dernier défi, c'est l'identification iconographique de certaines scènes, parfois très lacunaires, ou encore les quatre figures en pied et nimbées. En effet, jusqu'ici, nous n'avons aucun élément ou attribut permettant de déterminer qui sont ces personnages. Il est possible qu'on ne puisse jamais le faire. Les autres scènes sont relativement évidentes à identifier.
Il va falloir malheureusement clore cette émission ici. Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces explications très claires sur la peinture murale médiévale. Vous nous avez montré à travers la présentation de vos travaux comment l'histoire de l'art et l'archéologie, malgré leurs différences, se croisent et se complètent afin de mieux expliquer le contexte, la réalisation et l'interprétation de ces décors. Ainsi, nous avons vu comment votre parcours vous a mené à réaliser un master sur les décors peints dans les églises rurales, que ce soit par le prisme de l'archéologie ou de l'histoire de l'art, mais aussi de la volonté qu'il vous a fallu pour surmonter les différentes difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre de vos études respectives. Jeanne, Aliénor, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour toutes ces explications. Je pense que nos auditeurs en ont appris autant que j'en ai appris lors de cette émission qui, je l'espère, a développé leur goût du Moyen-Âge.